pretty good against the measure. Everyone started out a little insane, but we learned pretty quick how to fake it for the game. But some of you never learned to drop the act, so under that skin of yours, a heart attack.
Paris, 5 heures à Dakar et en temps universel.
RFI Matin, Andréane Mélard.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. RFI Matin commence, c'est maintenant 3 heures d'infos tout autour du monde. Et aujourd'hui, le Moyen-Orient encore à la une, les cessez-le-feu, le détroit d'Hormuz fermé à nouveau. Et puis aussi, surtout, cette interrogation sur la tenue ou non d'un nouveau round de discussion au Pakistan entre l'Iran et les États-Unis. On en parle très largement ce matin. D'abord dans votre journal, Martin Guez, bonjour.
Et bonjour André Mellard, bonjour à toutes et à tous.
Voilà, c'est pour parler incertain au Pakistan à la une et une trêve de plus en plus précaire au Liban.
Alors que les démolitions israéliennes se poursuivent dans le sud du pays et que l'État hébreu trace une ligne jaune de démarcation établissant de fait une zone tampon d'une dizaine de kilomètres de profondeur. Par ailleurs, un deuxième soldat israélien est mort depuis le début de la trêve au Liban. On sera en ligne de Beyrouth avec Paul Khalife dès le début de ce journal. Les États-Unis trouveront-ils chaise vide à Islamabad, où l'Iran n'a pour l'instant pas prévu de se rendre pour ces nouveaux pourparlers annoncés, alors que la situation se tend dans le détroit d'Ormuz après la saisie d'un cargo iranien par la marine américaine. Dans ce journal aussi, nous serons en Pologne, où le président français Emmanuel Macron arrive aujourd'hui, au Pérou, où le dépouillement du premier tour de la présidentielle prend énormément de temps et enflamme l'extrême droite du pays, alors qu'une nouvelle intelligence artificielle nommée Mythos affole, elle, le secteur bancaire. Il ne faudrait pas qu'elle tombe entre de mauvaises mains, comme vous le verrez en fin d'édition.
Quatrième jour de cessez-le-feu au Liban, une trêve qui montre de nouveaux signes de faiblesse.
Israël usera de toute sa force au Liban si les troupes israéliennes font l'objet d'une quelconque menace. Voilà les dernières déclarations du ministre israélien de la Défense, Israël Katz, alors que l'armée de l'État hébreu a annoncé la mort au combat de l'un de ses soldats dans le sud du Liban, le deuxième depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Trêve qui a permis une baisse de l'intensité des combats, mais qui est loin d'être pleinement respectée, comme on va le voir avec notre correspondant à Beyrouth. Bonjour Paul Khalife.
Bonjour Martin, bonjour tout le monde.
L'État hébreu qui impose de fait une zone tampon dans le sud du Liban d'une profondeur de 10 km et des démolitions israéliennes qui se poursuivent.
Oui, oui, c'est la table rase. Les Israéliens détruisent des maisons, des bâtiments publics, des écoles, des routes. Des villages entiers sont réduits en poussière. Des sources libanaises estiment que la zone tampon instaurée par des Israéliens sur plusieurs centaines de kilomètres carrés le long de la frontière s'étend sur 8% du territoire, de la côte méditerranéenne au contrefort du Golan occupé. Les opérations de destruction systématique se déroulent dans des dizaines de villes et de villages. Des explosions sont entendues dans tout le sud du Liban, résultant des opérations de dynamitage en cours. Des dizaines de bulldozers et de pelleteuses sont également à l'œuvre. Ces engins appartiennent à l'armée israélienne ou à des compagnies privées rémunérées pour procéder aux destructions. Les images montrent un spectacle de désolation totale.
Et Paul, des destructions qui s'accompagnent de nouvelles opérations militaires.
Des accrochages sporadiques ont été signalés sur plusieurs points du front qui s'étend sur 120 kilomètres. Des tirs d'artillerie se sont également produits. L'armée israélienne procède à de vastes opérations de ratissage à la mitrailleuse dans des localités situées au nord de la zone tampon. Les frappes aériennes, elles, ont cessé, mais des avions et des drones continuent de survoler le sud et d'autres régions du Liban.
Merci beaucoup, Paul Khalife, en direct de Beyrouth sur RFI. On reparlera de la situation au Liban avec le général Éric Delaprelle. Il sera le grand invité de Charlotte Hidrak dans un peu plus d'une heure.
Loin du Liban, le Pakistan se prépare à de nouveaux pourparlers.
Mais aura-t-il seulement lieu, Andréane ? Rien n'est moins sûr à l'heure où Islamabad met en place un dispositif de sécurité exceptionnel pour recevoir le vice-président américain J.D. Vance et les émissaires de Donald Trump qui représenteront les États-Unis. Mais l'Iran n'a pas pour l'instant prévu de se rendre dans la capitale pakistanaise. Téhéran avance qu'une levée du blocus naval américain serait une condition préalable à ces pourparlers, alors que la tension monte dans le détroit d'Ormuz. Bonjour Karine Auton.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondante à New York à la veille de l'expiration du cessez-le-feu entre Iraniens et Américains. Les États-Unis ont attaqué un cargo iranien et l'Iran menace désormais de riposter.
Le commandement central américain a posté des images prises depuis le destroyer lance-missile qui a arraisonné le navire au pavillon iranien, le Tuska. Il avait franchi la ligne du blocus selon le Pentagone, a ignoré des avertissements radio, alors trois coups de feu neutralisants ont été tirés en sa direction. C'est la première fois depuis le début du blocus américain des ports iraniens que la US Navy a ouvert le feu. Jusqu'ici, elle avait simplement forcé 25 cargos à faire demi-tour. La salle des moteurs du Tuska aurait été touché, ce qui aurait permis aux Marines de s'emparer du navire. Impossible de vérifier ces images, mais Téhéran parle déjà d'actes de piraterie et se réserve le droit de répliquer. Ce face-à-face dans le détroit d'Ormuz, en tout cas, symbolise bien l'escalade qui reprend entre Washington et Téhéran, alors que le cessez-le-feu expire mercredi.
Et Karis, cela pourrait donc perturber les plans d'une nouvelle série de pourparlers prévus à Islamabad.
Donald Trump voulait cette reprise de pourparlers. Son équipe composée de J.D. Vance, son gendre Jared Kushner et le négociateur Steve Witkoff est d'ailleurs en route. Depuis hier, Islamabad est à nouveau placé sous haute sécurité et tout cela avait suscité l'espoir de reprise de négociations directes et d'une prolongation de ce cessez-le-feu fragile. Mais l'Iran n'a pas confirmé sa participation. Le chef de la diplomatie iranienne s'est plaint des mauvaises intentions et d'un manque de sérieux en matière de diplomatie de la part des Américains. Ce blocus américain des ports iraniens est clairement ce qui bloque Téhéran. L'Iran pourrait demander la levée de ce blocus comme garantie préalable de reprise des discussions.
Merci Karine Auton, correspondante de RFI à New York.
Pro-russe et anti-corruption, voilà un peu le profil de Roman Radev, futur premier ministre bulgare.
Qui a largement remporté les élections législatives hier dans ce pays d'Europe de l'Est, le plus pauvre de l'Union européenne. La coalition de l'ex-président bulgare est arrivée en tête avec 45% des voix, ce qui lui garantit une majorité absolue de 130 sièges sur 240 au Parlement. Roman Radev devance largement l'ancien premier ministre conservateur Boyko Borisov, qui dirigeait le précédent gouvernement et qui n'a lui récolté que 12% des suffrages, scrutin auquel ne participaient que 51% des Bulgares inscrits sur les listes électorales, même si ce résultat est en hausse. On y reviendra plus longuement dans le journal de 6h, temps universel de Paul Lonsin-Spinelli.
Emmanuel Macron, lui, est attendu en Pologne ce lundi.
Il n'arrive pas seul, Andréane, puisque le président français sera entouré de 4 ministres, ceux des armées, des affaires étrangères, de la culture et de l'énergie. Tout ce beau monde arrive dans la matinée à Gdansk, à seulement 150 km de l'enclave russe de Kaliningrad, pour ce tout premier sommet franco-polonais sur le sol polonais, avec le Premier ministre pro-européen Donald Tusk. Emmanuel Macron doit aborder la question de la coopération franco-polonaise au sein de l'Union européenne. Il doit aussi aborder la question de renforcer la souveraineté du vieux continent face à la Russie, sommet qui fait suite à celui de Nancy, signé l'an dernier en France, et qui doit aussi permettre de nouveaux accords et de nouvelles signatures. Adrien Sarlat.
Coopération militaire, énergétique et culturelle, cette journée de la l'amitié franco-polonaise promet de renforcer les liens entre Paris et Varsovie. Depuis l'an dernier, le traité de Nancy intègre la Pologne au cercle très fermé des États auxquels la France a promis une assistance militaire mutuelle. Le sommet d'aujourd'hui devrait être l'occasion de signer quelques partenariats en matière de satellites et de communication militaire. Lors de son discours de l'île Longue en mars, Emmanuel Macron avait aussi évoqué la possibilité de disposer des têtes nucléaires sur le territoire de ses alliés comme la Pologne, tout en conservant la décision finale de leur déclenchement. Et les discussions du jour pourraient donc permettre de préciser les contours de ce partenariat dit de dissuasion nucléaire avancée. Il devrait aussi être question de la transition énergétique de la Pologne, dont la première centrale nucléaire est en construction. Une deuxième devrait rapidement suivre et cette fois, le français EDF espère remporter l'appel d'offres pour produire ses réacteurs. La visite devrait s'achever sur un volet culturel avec la première remise du prix Guéremec, récompensant une personnalité ayant œuvré à renforcer l'amitié franco-polonaise. Adrien Sarlac, Dainsk, RFI.
RFI 6h08 à Luanda, dont le pape Léon XIV s'éloigne ce matin.
Cap à l'est, vers Sao Rimo, pour le souverain pontife. C'est à près de 1000 km de la capitale angolaise. Troisième jour de visite en Angola pour le pape. Cette fois-ci aujourd'hui, étape symbolique dans cette province diamantifère proche de la frontière congolaise. Hier, Léon XIV avait donné une messe devant plus de 100 000 fidèles en banlieue de la capitale. Et puis l'actualité africaine de ce lundi matin, c'est aussi ce rendez-vous au tribunal pour Kémi Séba, l'influenceur béninois visé par un mandat d'arrêt au Bénin, qu'il accuse d'avoir soutenu une tentative de coup d'État en décembre dernier, est actuellement en détention provisoire en Afrique du Sud. Alors qu'une demande d'extradition est en cours, il comparaît aujourd'hui aux côtés d'un de ses fils et d'un sud-africain accusé de l'avoir aidé à tenter de rejoindre le Zimbabwe. Précision de notre correspondant en Afrique du Sud, Valentin Hugues.
La justice sud-africaine doit d'abord trancher une question d'immigration illégale. Kémi Séba est en Afrique du Sud depuis environ 5 mois. Son visa a expiré il y a 2 mois, selon son entourage, et l'influence se préparait à traverser la frontière avec le Zimbabwe lorsqu'il a été arrêté. Mais au-delà du dossier immigration, la police sud-africaine mentionne une opération d'infiltration avec Interpol qui a permis de mettre la main sur Kémi Séba. En effet, l'influenceur est recherché par le Bénin sous le coup d'un mandat d'arrêt international après son soutien à la tentative de coup d'État en décembre dernier. Si l'Afrique du Sud affirme qu'une procédure d'extradition est en cours, selon une source proche du dossier, il y a très peu de chances qu'elle aboutisse en l'absence d'accord entre le Bénin et l'Afrique du Sud. Ce sera le deuxième dossier du jour. Les avocats de Kémi Séba vont tenter de régler cette question d'extradition le plus vite possible et demanderont sa libération. S'il était libéré, Kémi Séba pourrait vouloir rester en Afrique du Sud, mais aussi rejoindre le Niger, puisqu'il est en possession d'un passeport diplomatique nigérien. Valentin Hugues, Johannesburg, RFI.
Les résultats du premier tour de la présidentielle au Pérou tardent à se faire connaître.
Premier tour qui a eu lieu dimanche dernier, le 12 avril. Ce que l'on sait pour l'instant, c'est que Keiko Fujimori, la fille de l'ancien président Alberto Fujimori et présidente du parti de droite Force Populaire est qualifiée pour le second tour. Elle est pour l'instant créditée de 17% des suffrages alors que le dépouillement se poursuit et que ses deux principaux poursuivants sont au coude à coude. Pour l'instant, on ne sait pas qui est du candidat d'extrême droite Rafael López Aliaga ou de celui de gauche Roberto Sanchez sera au second tour, mais déjà l'extrême droite se réunit pour manifester et contester. Rafael López Aliaga est pour l'instant troisième avec seulement 13 000 voix de retard et il dénonce déjà des fraudes, Martin Chabal.
Des bureaux de vote qui n'ont pas pu ouvrir et n'ont ouvert que le lendemain. Des urnes pleines retrouvées dans les poubelles de Lima. Les irrégularités qui entourent l'élection provoquent la colère des manifestants, comme Nelly.
On veut la vérité. Et pour l'instant, la vérité, c'est qu'on n'a que des doutes. Il faut des enquêtes.
Selon Rafael López Aliaga, les institutions qui organisent l'élection ont volontairement saboté le scrutin à Lima, principal bastion du candidat d'extrême droite. Alejandro estime que le retard dans l'ouverture de nombreux bureaux de vote de la capitale a pénalisé son candidat Rafael López Aliaga.
Certains bureaux de vote n'ont ouvert qu'à 2h de l'après-midi. J'imagine que les anciens sont rentrés chez eux et ne sont pas revenus voter.
Parmi les manifestants, presque tous n'ont plus confiance dans les institutions et le scrutin. Il faut dire que les 10 ans de crise politique que traverse le pays, rongé par la corruption, ont déjà mis à mal la confiance des Péruviens. Yann préférerait repartir de zéro.
On veut de nouvelles élections. Il y a eu trop de corruption et on n'a pas respecté le droit de vote de beaucoup de Péruviens.
Pendant ce temps, le dépouillement continue et Rafael López Aliaga talonne le candidat de gauche Roberto Sanchez. Pour l'instant, 13 000 voix les séparent, mais si l'on s'en tient aux déclarations des institutions en charge du scrutin, il faudra attendre la mi-mai pour départager pour de bon ces deux candidats. Martin Chabal, Lima, RF.
Et il reste un peu plus de 5%.
Angeline, pourquoi tu te caches? Fais pas la gueule. Donne-moi la main. Tous les deux, on va le faire. Il faut y aller. On va grandir. Prends tes affaires. Le monde entier y est passé. On n'est pas seul. Me regarde pas comme ça, avec tes yeux. Quand tu m'observes, et c'est trop dur de te dire non. Depuis toujours, on nous a chanté la chanson. On va pousser ensemble et on sera jamais vieux.
Encore un peu, encore quelques années ici. Je veux rester la gosse qui se cache en haut de l'arbre. Pour que jamais y ait mon nom sur une plaque de marbre. Rester blotti, garder encore les clés du nid. Comprends-moi, ne fais rien. Mon cœur appartient à l'enfance.
Comprends-moi, allez viens. Allez viens, on se lance.
Grandir c'est quoi? Grandir c'est quand moi je m'en fous. Ici c'est beau, pas sûr qu'après ce sera pareil.
Je te promets pas des monts, je te jure pas des merveilles. Des jours avec et des lendemains debout.
Laisse-moi danser dans mes années. Vas-y sans moi découvrir ton bel inconnu. Et reviens-moi un jour pour me décrire la vue.
Non, non, je t'en prie, me fais pas le coup de l'orpheline. Y'a bien trop de gens tout seuls pour y jouer à faire semblant. Des adultes de naissance chez qui l'enfant ça fait chou blanc. Allez, pose tes épines, frangine.
Comprends-moi, ne fais rien. Mon cœur appartient à l'enfance.
Comprends-moi, allez viens. Allez viens, on se lance. On se lance dans le ballet des premières fois. Paraît que c'est chouette d'avoir une autre langue dans sa bouche. Je veux goûter au doigt de l'amour qui me touche. Mettre du tabac dans nos clopes en chocolat.
Laisse-moi danser dans mes années. Je reste ici croquer quelques instants de rab. Je veux encore faire la course avec mon cartable.
Allez, frangine, donne-moi la main. Viens, on leur montre. Qu'on va y croire au lendemain qui se sublime. Au lendemain, espoir qui se danse dans l'intime. Au lendemain, debout, fierté de nos débuts. Au lendemain, écrit, au lendemain qui crie. On va danser dans nos années. Allez, danse. Oui, frangine, danse. Au lendemain, confiance. Au lendemain, enfance.
Au lendemain, bêtise. Au lendemain, friandise.
Au lendemain, la suite. Au lendemain qui milite. Au lendemain, écrit, au lendemain qui crie. Qu'on se battra pour des jours qui inspirent. Qu'on écrira pour tous ceux qui respirent. Dans le sourire de nos matins qui se bonsoir. Au lendemain, y croire. Allez, frangine. On grandit. Viens, on y croit. Au lendemain.
Y croit. Au lendemain.
Mmh. car l'épreuve finale est temps. Je gagne la maison d'arrêt, un SMIC sans remplaçant. J'ai la tête remplie de rêves, les poches pleines de pièges confectionnés avec amour. Qui demande qu'à trouver preneur, mais l'attention est de rigueur pour trouver les têtes qui méritent l'honneur de faire partie de nos plans secrets. La démarche est simple et le repérage tout un art. Certains s'agitent alors que les plus audacieux se cachent derrière le miroir de l'innocence. Comme celui-là qui cache au fond de ses tiroirs les pages, l'ingénierie du catalogue, la redoute. Lors des récré, il est plus d'un pulse. Il reste des cours derrière les filles en criant. Ma pite s'appelle Julien. Il traîne de pair avec un type comme Jackson 5. C'est cool en quatre coutures, la muscu, il a grandi dans ça. Bon, Alicia, non, fais une pente. C'est un bon nom, mais qu'est-ce qu'on pourrait prendre? S'il te plaît, pas de gros, pas de mec, pas de moche, pas de beau, pas de petit, pas de grand, pas de noir, donc pas de allez, joie, j'en fais une pente. Alors toi et moi, pour deux, Julien et Tyson font quatre, suivi du Beatles, cette chanson, ce qui fait six. Règne de voir un crew se former, j'ai la chair de poule sur les bras. Manque plus qu'à trouver le septième, dicter notre héritage. On comprend pas ce gag, gag, ancien acolyte, déclaré partisan du gag. Pleurnichant car séparé de ses trois acolytes, personne ne le consonne, sauf la sienne. Il m'a dit qu'il chantait dans un groupe, qu'il s'écrivait qu'elle avait des consonnes. Qu'à cela ne tienne, on va y rajouter quelques voyelles, vois-tu, à la loyale pour notre crew. Il m'a l'air d'être un bon voyou, ça va pas louper.
Je vois pas qui c'est.
Mais si, regarde-le avec ses baskets blanches avançant, bien va chalouper. Ok, c'est tout, je sais, reçu c'est sur cette carte, s'agit, ça sent le seul complète. A tous ses biens, mes cadeaux dans la bataille, alors prête son serment. Mais je redonne jamais en parler aux parents. Allez, ça y est, on a notre pense, c'est un bon nom, finalement on a du prendre. Écoutez, un gros, des minces, des moches, pas de beaux, des petits, des grands, des noirs, donc des blancs. Allez, ça y est, on a notre pense, c'est un bon nom, finalement on a du prendre. Écoutez, un gros, des minces, des moches, pas de beaux, des petits, des grands, des noirs, donc des blancs. Allez, ça y est, on a notre pense, c'est un bon nom, finalement on a du prendre. Écoutez, un gros, des minces, des moches, pas de beaux, des petits, des grands, des noirs, donc des blancs. Allez, ça y est.
Splendid.
avec mes oreilles.
Avec tes oreilles, tu écoutes et tu entends la musique.
Principe actif à Évreux 102.4, dans le sud de l'Eure 95.9.
Every time them here, we chant for more. Is it?